Départ, je voulais monter un texte de Laurent Mauvignier qui s'appelle Ce que j'appelle l'oubli, et finalement j'ai décidé de pas le monter parce qu'il avait déjà été monté plein de fois. Et Ce que j'appelle l'oubli, ça parle d'un clochard qui s'est fait qui a volé dans un supermarché une canette de bière et qui s'est fait battre à mort par des vigiles, ce qui est complètement absurde évidemment et odieux. Ce texte m'avait fort parlé. Ensuite, il y a plusieurs faits divers que j'ai réussi à voir. Enfin, c'est comme si mon acuité, j'avais mon attention qui était prête à lire des faits divers, comme par exemple un père de famille qui braque une supérette avant Noël pour pouvoir offrir des cadeaux à ses gamins. Et puis dans le même temps, donc, moi j'avais commencé à écrire ce texte il y a 5 ans. Et dans le même temps, je bossais la nuit dans des supermarchés, je faisais des inventaires. Et donc j'ai découvert ce que c'était qu'un supermarché la nuit. Ben, c'est flippant en fait, hein, un supermarché la nuit, et ça continue de bosser tout le temps en fait. C'est une grosse machine, on s'en rend pas compte, et plus c'est gros, plus c'est une grosse machine, plus il y a des mecs qui travaillent la nuit. Et aussi, donc, je vivais avec cette vie la nuit où c'est quand même... pas rien de travailler la nuit, on n'est pas sur le même rythme que les autres, on peut pas avoir une vie de famille comme tout le monde. Et donc j'ai commencé à réfléchir autour d'un huis clos, autour d'un couple de parents, parce que j'ai commencé aussi à... Dans le même temps, je lisais Hansel et Gretel, je relisais les contes de Grimm, etc. Et donc j'ai essayé de transporter dans un temps plus contemporain la problématique de l'abandon. Et là, en l'occurrence, c'est des parents qui... Enfin, dans Le Petit Poucet ou dans Hansel et Gretel, on va suivre le parcours des enfants. C'est cela qu'on suit. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des parents viennent à se dire « mais on ne peut plus, là, on ne peut plus gérer en fait, les gamins ». Ça, on ne sait pas, ça reste un mystère. Et c'est autour de ça, moi, que j'ai essayé de travailler. Sans donner de réponse, et presque mes personnages, ils subissent un peu leur propre monstruosité. En fait, ils ne l'ont pas décidé, c'est pas volontaire, il y a rien de volontaire en fait, ils vont juste pas chercher les gamins à l'école, ils arrivent pas en fait, elle arrive plus la maman. Ça commence au moment où ils vont pas chercher les gamins à l'école et ils vont se retrouver. En fait, c'est la pièce, c'est une crise. Qu'est-ce qui va se passer? C'est deux adultes qui ont des enfants. Ces enfants sont censés être à l'école, c'est le moment d'aller les chercher. Ils n'y vont pas. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça. Il y a des résistances, il y a des conflits. Et puis, progressivement, plus la pièce avance, plus Yann, le personnage masculin, révèle des choses qui se sont passées, qui viennent de se passer le matin même. Un accident, il parle tout le temps d'un accident. Et puis après, on comprend qu'il y a eu peut-être un meurtre. Enfin, voilà. Ça se construit comme un thriller avec des révélations successives. Je n'en dis pas plus.
Alors dans le spectacle, il est question du travail, de l'aliénation au travail ou de l'aliénation à une machine, et aussi de la manière dont le travail impacte la vie de famille, percute les enfants. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette thématique ?
Le travail, il est vécu dans la pièce de manière très concrète. Par exemple, il y a un passage qui me tient beaucoup à cœur, c'est une espèce de calcul... sur si toi tu passes à 35 heures ou moi je passe à 30 heures mais tu passes en CDD, peut-être qu'on pourra avoir un crédit, peut-être qu'on pourra déménager de cet appart, peut-être qu'on pourra avoir une maison, peut-être qu'on pourra avoir un jardin, que les enfants pourront aller dehors, que je pourrai avoir un peu plus d'espace. Enfin, en fait, c'est dans un rapport extrêmement concret, assez fatigant, hein, parce que quand on est pauvre, ça demande beaucoup de boulot. Pour finir les fins de mois, pour s'organiser. À cet endroit-là, le travail, il est aliénant parce qu'il est mal payé, parce que on sait très bien que dans les supermarchés, il y a plein de petits boulots et que les mi-temps qui sont étalés sur toute une journée, c'est vraiment compliqué pour l'organisation de la vie de famille. Ensuite, sur les perspectives d'espoir... ils n'en ont pas vraiment, en fait, ils n'en sont pas là. Ils n'en sont pas encore à avoir une pensée politique. Il y a un moment où Yann va se positionner par rapport à une figure, on va dire, de patron. Il va se positionner contre, il va arriver à le faire. Il y a aussi un moment où il va se rejustifier, dire que lui, qui il est en fait. Ils sont un peu perdus sur qui ils sont chacun, quels sont leurs désirs. Déjà là, s'autoriser à prendre le temps de se retrouver eux, de se retrouver en couple ou pas en couple, hein, en tous les cas l'un face à face. Avant de pouvoir sortir, parce qu'ils sont seuls aussi, on sent bien que c'est un groupe qui est très isolé et que une pensée politique, elle advient s'il y a plusieurs personnes en fait. Pour l'instant, ils en sont pas encore là. Ils en sont vraiment la toute première pierre qui est de qui je suis et moi je sais qui je suis. Et à un moment donné, Yann il dit je sais qui je sais que je suis innocent, je sais que j'ai rien fait de mal, je sais que moi je voulais juste avoir je voulais juste offrir des cadeaux à Noël pour mes gosses, et c'est tout. Et je me positionne comme ça. Enfin, ça paraît rien, mais pour eux, c'est énorme déjà de s'affirmer, d'avoir une pensée sur eux-mêmes, enfin, qui est construite, quoi. Et elle a un désir de pas travailler, en fait. Elle a un désir d'être hors du travail. C'est pas une pensée révolutionnaire aboutie non plus, mais c'est aussi, je pense, très important de pouvoir s'imaginer libre sans travail, parce qu'on ne se construit que par le travail, et du coup, c'est pour ça que c'est si dur d'être au chômage dans notre société, que c'est si violent et si difficile à vivre, et que le regard est si violent aussi sur les chômeurs. Et elle réfléchit sérieusement au fait de ne plus avoir de travail.
Une vague me recouvre et je glisse. Je prends l'eau et je suis comme attrapée, je sens plus le fond et je me laisse aller. Je roule comme ça sur la plage avec l'océan.
J'ai faim. Est-ce qu'il reste de la viande?
Peut-être une tranche dans le congèle.
Et dans ce contexte, le fait que la pièce s'intitule Enfant mais qu'il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah pour moi, ça veut dire que finalement, peut-être que... Enfin, c'est une métaphore, donc ça parle... Parce qu'il y a cette angoisse des enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qui est tout le temps présente. Voilà, il faut venir voir le spectacle pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ces enfants, qu'est-ce qu'on leur fait. Il y a aussi le fait que ce sont un peu eux, les enfants. Parce que ce sont des jeunes gens et qui sont tout seuls et personne ne les aide. Enfin, ça parle d'un jeune couple de parents qui est complètement isolé. Qu'est-ce qui se passe si on abandonne, des gens qui sont dans des situations de fragilité économique ou psychique, qu'est-ce qui se passe, quoi?
On va parler un peu de la compagnie parce que ça s'intitule La Lune qui gronde. Donc le fait qu'elle gronde, la Lune, c'est l'idée d'une révolte en devenir.
Ouais, c'est ça. Et c'est aussi l'idée que une parole poétique ou métaphorique, elle peut porter une forme de révolte.
Et les spectacles que vous mettez en scène, que vous créez, ont toujours rapport avec justement des thématiques sociales et avec une vision critique.
Pour l'instant, là c'est notre troisième spectacle. Le premier c'était un conte initiatique pour enfants qui avait aussi une dimension politique. Le second c'était un spectacle sur le féminisme et sur la récupération du féminisme par le capitalisme. Donc c'était aussi assez politique. Et là, je suis en train d'écrire plusieurs textes. Je suis en train d'écrire un texte sur les migrations climatiques et donc la question de la justice climatique. Et j'essaie un peu d'aborder la question des migrations en sortant un peu d'un contexte ultra brûlant de la violence qui est faite aux réfugiés aujourd'hui et en la déportant sur, dans 10-20 ans, mais il y a déjà des réfugiés climatiques, mais dans 10-20 ans, on va devoir accueillir des gens et qu'il faut se préparer à accueillir et que c'est la réalité et qu'il faut aussi vivre dans le réel. Et donc comment est-ce qu'on va s'organiser pour le faire Et je travaille aussi sur un spectacle autour de la folie et de la déficience et de la place de la folie. Parce que j'ai fait un projet de 3 mois auprès de personnes handicapées, mentales. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a beaucoup interrogée, le fait que ça me fasse du bien. Et après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, côtoyer des personnes handicapées mentales, ça oblige à être dans un autre rythme. Si on veut être bienveillant avec eux, avec ces personnes, on est obligé d'être sur un rythme différent, un rythme un peu plus lent, un peu plus rêveur. Et que ce rythme est extrêmement... Enfin, me faisait beaucoup de bien. Du coup, j'ai envie de travailler autour de ça, quoi. Quelle place on laisse à d'autres rythmes dans notre société, quelle place on laisse aux personnes handicapées, quelle place on laisse aux personnes âgées. Je pense que la place est petite et je pense qu'on aurait tout à gagner de leur laisser plus de place, quoi.
Je reviens un peu sur ce qui caractérise la compagnie en termes de jeu de scène, notamment le réemploi des codes de genre cinématographique populaire. Qu'est-ce que ça donne sur scène ?
Ça donne qu'on s'amuse à créer de l'étrangeté et à jouer avec la peur, par exemple. Faire peur, les films qui font peur, c'est surtout souvent des films populaires. Moi, j'adore. Donc, c'est un travail autour de l'étrangeté et de la peur. En termes de mise en scène, il y a des surprises, en fait. Il y a des êtres surprises qui apparaissent dans le spectacle. Il y a des monstres. Enfin, il y a un monstre.
C'est cette atmosphère un peu fantastique, un peu étrange, un peu angoissante. Comment elle rejoint la thématique du travail ?
Peut-être que le mot qui se rejoint, c'est le mot de l'aliénation. Parce qu'on parle d'aliénation au travail, on parle aussi d'aliénation mentale quand on est fou, quand on est perdu ou quand on est en crise psychique. Et je pense que c'est à cet endroit-là que ça se rejoint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la violence qui est faite aux gens dans le cadre du travail et plus largement dans la société, elle vient impacter les gens profondément. C'est pas seulement dans leur vie professionnelle qui sont impactés, c'est jusqu'à l'intérieur des familles. Et voilà, c'est peut-être une manière poétique de raconter ça. Et aussi, par exemple, il y a le monstre. Le monstre, c'est un Père Noël monstrueux. Le Père Noël qui est une figure de l'enfance, mais qui est aussi une figure qui a été complètement créée pour vendre à Noël des cadeaux et tout le bazar qui va autour. Et le fait d'en faire une figure effrayante, ça rejoint l'univers des supermarchés. Enfin, c'est une construction un peu en poupée russe, en reflet métaphorique.
C'est qui ?
Les enfants, je crois.
Tu crois ?
Ouais.
Ils seraient rentrés à pied ?
Peut-être.
C'est pas eux.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont pas des voix d'enfants.
Laisse-moi écouter.
Alors ?
Je sais pas.
Faut pas ouvrir, on sait pas qui c'est derrière cette porte.
Laisse-moi ouvrir.
Promets-moi de ne pas ouvrir cette porte.
Je te promets.
Vite, éteins la lumière.
Chut.